Les gens, c'est comme les mots. Il y a ceux que j'aime et ceux que j'aime pas. Quand j'aime pas, je supprime. Les mots, les gens, je supprime. Mais supprimer, justement, c'est un mot que j'aime pas.
Supprime-le.
Est-ce que tu peux être con? T'es même pas con, t'es bête. Tu sais rien, tu vas jamais au cinoche, tu te tiens au courant de rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents. Dans le fond, être tout idiot, t'es peut-être dans le vrai. Le savoir, quand on commence à mettre le nez dedans, c'est pire que la canne.
La ligne claire. Trente-huitième numéro de ce magazine sonore qui, je l'espère, saura vous surprendre, vous séduire et vous captiver. Sont aujourd'hui les vrais passeurs ou transmetteurs de disques. À l'heure où n'importe quel kidam peut s'improviser DJ en touchant deux boutons et en levant les bras en l'air, un livre arrive à point nommé. Passeur de disques, du journaliste Ezrin Lebovitch. Il donne la parole à 30 personnes qui, suivant les époques, ont lutté pour que tous les genres musicaux puissent s'imposer ici en France. Un vrai parcours de combattant pour certains, un sacerdoce pour tous, quoi qu'il en soit. Qu'il soit DJ, programmateur de radio, animateur d'émissions, journaliste, consultant en maison de disques, tous ont cet amour incommensurable de la musique. En parler, la faire vivre, la faire exister. Vous êtes prêts? Je suis prêt aussi. Et maintenant, commençons.
Je suis prête. Vous êtes prêts aussi?
Attention.
Et maintenant, commençons.
J'ai commencé à m'intéresser à la musique via les séries de télé. J'aimais beaucoup les génériques des séries américaines et de certains films des années 70. Je trouvais que les génériques étaient souvent plus intenses que les films eux-mêmes, avec des musiques très en avant et super dynamiques par rapport à ce qui pouvait se passer dans la série. Je me souviens qu'après l'école, je courais chez moi pour essayer de choper le générique de fin de ma série préférée, Mission Impossible. Ce thème de Lalo Schifrin était un concentré de tout ce que j'aimais. Du jazz funk, bien arrangé, très musical, avec un super beat. Tous ces mecs qui faisaient des musiques de films à l'époque, Schifrin, John Barry, Jerry Goldsmith, étaient d'excellents arrangeurs, des types super cultivés, très pointus, qui se mettaient au service d'un genre populaire, tout en faisant passer des éléments très sophistiqués. Je m'en suis rendu compte plus tard. Mon premier disque était une compilation des musiques de Bond et John Barry. En dehors de ça, je n'aimais pas du tout la musique qu'on écoutait chez moi, même si je pense l'avoir intégrée de manière plus ou moins inconsciente. Mon père écoutait du Bach à 90% et pour les 10% restants, un peu de Mozart et de Vivaldi. Dimitri from Paris.
Thank you.
1914, 1994, 95, le milieu des gens de la house était très underground, très deep. Il ne fallait pas que ça sourie trop. Pour moi, c'était une aberration. J'avais découvert le disco via la house et j'aimais bien la musique gay au sens de joyeuse, qui était aussi la musique des clubs gays à l'époque. J'avais déjà enregistré un ou deux morceaux comme ça pour un label canadien. Il y avait une grande part de gospel, cet univers me touchait beaucoup. À l'inverse, tous les DJ de France étaient dans la techno, les raves, un truc un peu dur. Dès que c'était joli, on balayait, ça me gênait. Mais j'étais à peu près le seul à le penser. Encore une fois, en France, en 1914. Sur ordinateur avec le logiciel Traktor. J'utilisais même la fonction qui synchronise automatiquement les morceaux. Ça ne me gêne pas du tout. Synchroniser les disques, ça ne m'a jamais plu. Aujourd'hui, si la machine s'en charge, ça me permet de faire autre chose pendant ce temps. J'en suis ravi. L'espèce de faux débat, t'es pas un vrai DJ, je m'en fous. J'étais un vrai DJ à mon époque, je suis à l'aise dans mes chaussures. Des choses que mon frère et ma sœur écoutaient en commun. Debbie Harry est la première fille dont j'ai été amoureux. Ces groupes, pour moi, ont toujours un côté Madeleine de Proust. Mais en écoutant les tubes du top 50, j'entendais aussi des trucs pas mal. Imagination, c'était vraiment bien. Et puis, il y eut New Order, à qui je suis resté accroché un bon moment. J'ai découvert ça dans Hit des Clubs sur France Inter, un samedi soir à 2h du matin. C'était après Interdance de Joe Donna. J'avais 12-13 ans et j'écoutais de plus en plus la radio à l'époque. C'est à cet âge que je suis devenu très fan de musique. Et en un an, à partir de 14-15 ans, j'étais devenu un petit branché. C'est marrant. Je me rends compte que, dès le début, je m'intéressais à des trucs électro. Tout ce qui avait des boîtes à rythme et des machines m'attirait. Mon frère avait aussi les premiers maxis de hip-hop, Bambata, Grandmaster Flash, que j'écoutais. Donc, par la suite, la construction de la techno et de la house m'a semblé logique via ce son hip-hop ou celui de groupes comme New Order. David Blott.
Thank you.
L'époque est très, très paradoxale. Il n'est pas normal que moi, à 44 ans, je comprenne toute la musique qui est faite aujourd'hui. Rien ne me choque, rien ne me dérange. Et j'apprécie même beaucoup de choses. C'est absolument anormal. Comme on a connu les vieux cons du rock, peut-être qu'on essaie de ne pas reproduire la même chose. Mais normalement, dans toute l'histoire de la pop culture, on doit détester ce que fait la génération suivante. Les rockers des années 50 n'aimaient pas les chevelus des années 60, qui eux-mêmes n'aimaient pas les punks des années 70, qui n'aimaient pas la techno et le hip-hop. Et ça s'arrête là, même si le dernier genre important selon moi est la drum and bass, mais fondamentalement, c'est de la techno. Donc, il n'y a pas eu de nouveau genre musical d'importance, qui ne soit pas le bébé direct de tel ou tel, comme le dubstep par exemple, depuis le milieu des années 80. C'est dingue, à tel point que le retour du rock a été presque une nouveauté, alors que c'était totalement passéiste musicalement. Depuis le rock, depuis les Beatles, on est dans une culture adolescente. Nous, on est d'éternels adolescents perdus. On a l'impression que les Beatles, c'est hyper vieux. Mais que c'est Mozart, mais c'est vachement récent, ça a 60 ans. Il y en a encore deux qui sont en vie. J'ai l'impression que c'est la fin de ce cycle de pop culture, même si je ne le souhaite pas et qu'il n'aura que très peu duré. 70 ans, dans un livre d'histoire, ça n'est rien du tout. À chaque fois, on croit qu'un mouvement va durer toujours. Et puis, ça s'effondre au bout de 60, 70 ans, comme le communisme. C'est à peu près la durée écoulée depuis Elvis Presley, Eddie Cochran et tout ça. Ça n'est pas très rassurant ce que je suis en train de dire.
Ok, what I wanted to talk to you about. There's something that's been bugging me for about 5 months. I've been carrying around with me. It's been heavier and heavier every day. And, you know, it's almost to the point of wanting to get off the chair. I'm not trying to be fresh or anything, because I know you're John's girl, but I just have to tell you this. You see, I have a big respect for you. I'm not here. I'm going to let feel on you. But then, you see, I'm going to take you back to my childhood anyway. See, we had quite a big time.
Le dernier des neuneux est capable de l'apprendre en une demi-heure. En plus, maintenant, il y a l'automix, la synchronisation automatique des tempos. Carl Cox dit que la merde bien mixée reste toujours de la merde. J'aime bien cette phrase. Moi, je suis fanatique d'électro, même si je n'en mets pas, ou juste quelques morceaux, parce que d'autres le font mieux que moi. Là, oui, le mix au tempo a un sens. Ça sert quelque chose, tu fais monter un truc. Mais pour les autres, ça n'a aucun intérêt. Je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile que de réussir un cut, passer de 125 battements par minute à 45 autour d'une voix, d'une émotion qui se prolonge d'un disque à l'autre. Ça, c'est ce que j'aime. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Quand les gens sont sous, ils n'entendent pas ton mix. Faut arrêter de se branler. On vit une époque de branleurs. On fait croire aux gens qu'ils ont du talent parce qu'ils ont fait l'île de la tentation. Ça m'énerve parce que ça dévalorise les bons. Quand on habitue la clientèle à toute la merde, il n'y a pas d'autre mot, ça tue le travail qu'ont fait les pionniers. Dans le public, il n'y a plus un mec qui connaisse un titre ou un groupe. Les gars te disent « envoie du son », alors qu'avant, on venait te voir pour te demander tel ou tel disque. Il n'y a plus de culture. Demandez à un gamin dans la rue qui est Stevie Wonder, vous allez voir. C'est devenu de la conso. On mange, on jette, on mange, on jette. Du coup, je suis encore plus intégriste dans mes choix que je ne l'étais avant. Quand des mecs viennent me casser les couilles pendant que je joue, je leur dis « Faut plus sortir en boîte, aller faire la fête au McDo plutôt que de venir faire chier les gens. » Sans parler des DJ. Tout le monde joue la même chose, le top 10 du net, et les mecs font une soirée pour 50 euros. Même gratuit, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Le métier a été détourné, foulé aux pieds. Nous, les DJ, on est presque des éducateurs. Si on n'apporte rien musicalement, si on ne fait rien découvrir, il faut faire autre chose. Les imposteurs ont pompé la sève de l'arbre et ils tuent la profession. C'est dramatique. Il devrait y avoir une peine de prison requise. Moi, quand mon cerisier me donne de belles cerises, j'en prends soin. Je l'arrose pour qu'il m'en donne encore. Et j'ai envie que mes enfants et mes petits-enfants mangent aussi de belles cerises. Au départ, il y avait les fumeurs et les buveurs. Et les buveurs se sont mis à l'ecstasy. À partir de là, il fallait choisir entre devenir un DJ acid house et prendre de l'exta ou pas. Mes copains et moi, on était des fumeurs, plutôt dans le jazz, les musiques afro-cubaines, l'avant-garde. On s'est dit non, on reste à l'herbe. Le problème, c'est que le public qui ne prenait pas d'exta était plutôt straight à l'époque. Nous, qui jusque-là étions les freaks, les fous avant-gardistes, on ne l'était plus. C'était les autres qu'il était devenu. J'ai alors commencé à organiser des soirées un peu rave, mais underground, qui s'appelaient Cock Happy, où l'on jouait du free jazz et de l'acid house en même temps. On parsait des morceaux du label Trax, mais en les mixant avec l'Art Ensemble of Chicago, des choses comme ça. Toujours sans l'ecstasy, là, tout le monde prenait de l'exta. C'était the next level, le niveau au-dessus. C'était ça l'acid jazz. Les gens n'ont jamais vraiment compris ce mélange de deux courants. Mais les fans d'acid house, eux, ont commencé à venir aux soirées acid jazz. Gilles Peterson. découvert la musique électronique en allant dans les raves et les clubs, dans les années 90. À cette époque, le DJ ne représentait rien pour nous. On n'avait pas cette culture, ça ne nous parlait pas plus que ça. Moi, ce qui me fascinait, c'était de voir ces types dans l'ombre arriver avec leur sélection musicale qui me paraissait très radicale. Et je trouvais que ceux qui les écoutaient étaient tous très différents les uns des autres. Cette musique faisait se mélanger toutes les catégories socio-professionnelles. Comment une musique pouvait-elle réunir, unifier à ce point ? En même temps, je ne comprenais pas le décalage entre ce rassemblement et le fait que cette musique était si méconnue et mal vue par le grand public. En voyant ces DJ, j'étais intrigué par le pouvoir qu'ils avaient sur la foule. Ils passaient la musique des autres, mais créaient finalement leur propre son. À l'époque, c'était un défi en soi, parce qu'il fallait chercher les disques. Il fallait connaître les disquaires, les labels et les contacter. Je me souviens que la mode, c'était d'aller en Belgique pour trouver du son. Le DJ, tel que moi je l'entends, c'est ça. Quelqu'un qui va chercher le bon morceau pour le faire entrer au bon moment dans la construction de son set. J'ai tout de suite perçu cette dimension de construction. J'étais fasciné par le fait qu'un DJ puisse raconter une histoire, établir une progression sans trop de cassures. Il y avait une finesse, une intelligence dans la façon d'amener les morceaux que je trouvais passionnante. Chloé. Ça se passe. D'abord, quand on commence, on n'est pas programmé au peak time, à 2h du matin quand tout le monde est chaud. On passe en début de soirée, quand il y a moins de monde. Ça oblige à trouver une façon de faire venir les gens sur la piste. C'est là qu'on apprend les messages du public. Moi, j'ai beaucoup appris au pulp quand j'ai été résidente, à une époque où le club n'était pas très connu. J'ai fait tous les horaires. J'ai grandi en même temps que le lieu. Au bout d'un moment, on commence à savoir comment les gens arrivent sur la piste. Le débutant va envoyer direct, pour prouver qu'il existe, qu'il est fort. Ça peut marcher 5 minutes, mais pas 10. Il faut jouer avec le public. C'est un échange permanent entre ce qu'on veut imposer et ce que le public nous renvoie. Il faut que les gens suivent. À mon sens, un bon DJ doit sentir le public, à quel moment il est fatigué de tel style, s'il faut jouer plus cool ou plus dur, etc. On le sent très bien depuis la loi anti-tabac. Quand cette loi est passée, en 2006 et 2008, du jour au lendemain, c'était très déstabilisant. On voyait tout un groupe de personnes sortir fumer en même temps. C'est un bon test pour un DJ. Ensuite, c'est une concentration de chaque instant. Il faut sentir, réfléchir. L'expérience fait qu'on capte plus rapidement l'effet qu'on veut faire aux gens. Aujourd'hui, je sais que lorsque je me fais plaisir, c'est que je maîtrise. Je crois qu'il y a deux styles de DJ. Il y a celui qui fait son truc et qui s'en fout, qui se dit « je suis un artiste, tant pis si vous n'aimez pas ». Et puis il y a le DJ qui, je pense, me correspond davantage, qui se dit « on va faire la fête tous ensemble ». Ce sont deux conceptions différentes. Je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre, mais il y a cette différence. Des films. La technologie fait que le coût des choses devient beaucoup plus abordable. Mais avant aussi, tout le monde pouvait être DJ, s'acheter une platine et une table de mixage. Ce n'est pas ce qui coûtait le plus cher. Tout le monde peut être DJ, mais il y a un truc qu'on n'apprend pas. Jouer le bon disque au bon moment. Tu peux faire tes gammes, être super au point techniquement, mais le feeling, c'est autre chose. Tu peux apprendre à peindre, ça ne veut pas dire que tu seras Picasso. Pourquoi certains films sont-ils creux? Pourquoi certains tableaux ne te procurent-ils aucune émotion? L'émotion, c'est bizarre. Je pense que ça va plus loin que juste ton art, en fait. Il y a un truc spirituel, un peu mystique là-dedans. Pourquoi se souvient-on encore de Guy Cuevas, DJ historique du set et du palace, et pas de Didier Dard, qui jouait à la même époque, au même endroit? Qu'est-ce qu'il avait, Guy Cuevas? Et Larry Levan, au Paradise Garage de New York, qu'est-ce qu'il avait? C'est une sensibilité, une émotion. C'est ça qui fait la différence. Pas le logiciel que tu utilises. Laurent Garnier. C'est important le rêve. Pourquoi est-ce qu'on va en boîte de nuit? Pourquoi on va danser? Quand tu vois des gens danser, mets-toi un jour contre un mur et regarde-les. Ils vont au milieu de la dance floor. Le son est super fort, ils n'arrivent pas à se parler. Et ils gesticulent dans tous les sens. Si on faisait ça dans la rue ou dans le métro, on passerait pour des jobards. C'est quand même très bizarre. Ça m'arrive plein de fois de m'adosser au mur et de regarder la salle en me disant « Là, on enlève la musique. Les gens sont clairement ailleurs que dans le monde normal. » Donc forcément, l'idée du voyage est très importante. L'idée d'aller danser, c'est quand même pour mettre tes problèmes de côté, oublier ta vie de tous les jours et partir en voyage. C'est comme quand tu vas voir un film ou que tu lis un livre. Tu t'évades. Fin des années 80, je suis dans les bandes de la scène alternative. Je regarde d'ailleurs le hip-hop de loin, ça ne me touche pas à ce moment-là. Je sors d'une période un peu bizarre, il y a trop de violence dans ma vie. Je suis passé par la case prison, je suis coursier, je m'emmerde. Les week-ends de concerts, bagarres et matchs de foot, j'en peux plus. Je veux changer d'environnement. Le hippie qui sommeille en moi commence à se réveiller. Et puis, on m'emmène dans une rave party. Par le plus grand des hasards, fin 91. C'était dans une champignonnière, je crois. J'en ressors changé. Je ne m'approche pas des DJ ce soir-là, je passe la nuit à rêver. Avec tout ce que ça implique, nouvelles drogues, nouvelles rencontres, etc. Après ça, pendant 6 mois, tous les week-ends, je vais en teuf. Toute ma vie a changé à ce moment-là. Pendant 10 ans, après ça, de 1992 à 2000, je vis, je bois, je mange, je baise, techno. Je n'écoute plus que de la musique électronique, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Manu le malin. D'amour. Je baisais avec le public, bien sûr. Quand tu baises avec quelqu'un, tu essaies des choses. Et si ça ne marche pas, tu essaies autre chose. Et puis tu varies. Il faut tout le temps être en contact, à l'écoute. C'est pour cette raison que je n'ai jamais aimé les disques jockeys qui jouent tout le temps avec leur casque sur les oreilles. Parce qu'ils ne travaillent pas avec le public qu'ils ont devant eux. Ils travaillent pour eux-mêmes. J'ai l'impression de voir un technicien qui se masturbe. Une salle, il faut l'écouter. C'est important. Même le bruit de fond. Tout indique quelque chose. Tous les artistes te disent la même chose quand ils sont en spectacle. Ils reçoivent les vibrations d'un public. À l'époque où j'ai commencé, les DJ ne pensaient pas comme ça. Guy Cuevas. J'ai commencé à introduire dans mes sets des chants d'oiseaux sauvages, des bruits de train, en même temps que les disques. Je les mélangeais. Mais ce mélange n'était pas enregistré sur bande, je faisais tout en live. Je ne suis pas technique, je ne l'ai jamais été. Au Palace, il y avait un magnétophone, mais je ne m'en servais jamais, sauf exception, lorsque j'organisais un défilé de mode. Je ne me servais que de mes 3 platines, et jamais de casque. Tu ne mets pas un casque quand tu baises. J'adorais écouter le brouhaha. C'est là qu'il y a des vibrations. Je le sais encore plus depuis que je suis aveugle. C'est là qu'on capte des choses. Si les gens sont contents ou pas, si ça leur plaît ou pas, comme un chanteur devant son public. Passe par ici et je repasserai par là. Touriste, parce que ça met de la distance. Je suis touriste partout où je passe. C'est une manière de se foutre un peu de sa propre gueule. Ne nous prenons pas trop au sérieux, et surtout pas pour le centre du monde. J'ai la chance d'avoir des amis proches comme Gilles Peterson ou Laurent Garnier. Ce sont des gens avec qui j'échange beaucoup. Posez-leur la question et vous verrez ce qu'ils vous racontent sur ma pomme. Je suis assez difficilement classable. Il y a des gens qui me prennent pour un super spécialiste de telle musique et des gens qui ne m'attendent pas du tout sur tel autre. Rémi, Colpa, Copoul. We'll be right back. vous savez, je peux filer 200 de mes disques à danser à n'importe qui. De toute manière, ce ne sera pas pareil. C'est comme la cuisine. Quand on a tous les mêmes ingrédients, chacun fait sa sauce. Je pense que rien ne m'appartient. Quand je fais ma cuisine, je sais que ça ne sortira pas pareil qu'avec d'autres gens. La concurrence, je n'en ai rigoureusement rien à foutre. J'éteignais la lumière, je créais des espaces, comme dans les dancing de l'époque, où l'on écoutait une valse, et avant de passer à autre chose, il y avait un petit blanc. Je le faisais aussi à la fin d'un morceau. On éteint les lumières, et la boule à facettes s'arrête de tourner, jusqu'au début du morceau suivant. J'ai appris avec Fabrice Lemaire que la lumière était très importante. Quand Fabrice arrivait au privilège, il montait immédiatement dans la cabine et réglait la lumière en fonction de l'ambiance de la soirée. Il avait tout compris. Je faisais la même chose au balajo. Quand la musique était jazzy, je baissais un peu la lumière. Artistiquement, je crois que ça a été le summum pour moi. Tout le monde s'en souvient. Ça a été mon tremplin. Après, j'ai pu accéder à des clubs comme le Royal Lieu, à Opéra, où venait la crème parisienne. 150, 200 personnes maximum. Un très bel endroit. On voit ce décor dans un film de Cocteau. Il y avait des moulures partout. À ce moment-là, j'étais LE DJ de l'élite parisienne. Albert de Paname. Sur ce genre de choses. Pour moi, la musique, c'est un peu comme l'art contemporain, comme la peinture. Il y a un moment où tu n'imposes rien à personne. Les gens sont libres de venir t'écouter ou de rentrer chez eux. En revanche, toi, en tant qu'artiste, tu es complètement libre de proposer ce que tu as envie de proposer. Donc, il n'y a absolument aucune concession à faire dans ton art. Jamais. Tu dois faire ce qui te parle. Ce n'est qu'à partir de là que les gens pourront te respecter, te suivre et te connaître. On n'est pas là pour mentir. On ne fait que de l'art. On ne change pas la face du monde. Nous ne sommes pas des politiciens. On n'a pas à bullshiter les gens toute la journée. Sauf si tu fais ça pour le fric. Mais ça, le public le sait très vite. C'est beaucoup de freestyle. Je ne prépare pas à l'avance en me disant je vais passer ça, et après ça, et après ça, etc. Je décide sur le moment, j'improvise, je prends beaucoup de plaisir à mixer. Plein de musiques différentes, du jazz, de la house, du hip-hop. C'est pour ça qu'en club aujourd'hui, il me faut 5, 6, 7 heures de mix. Je ne peux pas faire tout ce que je veux en une heure ou une heure et demie. Ça ne m'intéresse plus. Du jazz, de la house, du hip-hop. Du jazz, de la house, du hip-hop. Jazz, the house, du hip-hop. La ligne claire. Du jazz, the house, du hip-hop.
ici la Terre, fusée lunaire, répondez. Allô, allô, ici la Terre, fusée lunaire, répondez.
Ici fusée lunaire. Allô, 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 c'est Tintin qui vous parle. Je viens de reprendre connaissance.
Graphite 94.9, vous pouvez reprendre connaissance, la ligne claire se termine. Merci à Gisèle, Christian et Mitchum pour la belle inspiration. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine sonore. Même lieu, même heure. Et d'ici là, restez à l'écoute, il se passe bien des choses de ce côté de la radio. La ligne claire.